Benassi entra dans la maison suivi du père. Une demi-heure après, il sortit accompagné de la mère, à laquelle il dit « Soyez sans inquiétude, faites ce que je vous ai recommandé de faire. Elle est sauvée. » « Si tout cela vous ennuyait, dit ensuite le médecin au militaire en remontant à cheval, je pourrais vous mettre dans le chemin du bourg, et vous y retourneriez. » « Non, par ma foi, je ne m'ennuie pas. » « Mais vous verrez partout des chaumières qui se ressemblent. Rien n'est en apparence plus monotone que la campagne. »« Marchons !» dit le militaire. Pendant quelques heures, ils coururent ainsi dans le pays, traversèrent le canton dans sa largeur, et vers le soir, ils revinrent dans la partie qui avoisinait le bourg. « Il faut que j'aille maintenant là-bas, » dit le médecin à Genesta, en lui montrant un endroit où s'élevaient des ormes. « Ces arbres ont peut-être 200 ans, » ajouta-t-il. « Là demeure cette femme pour laquelle un garçon est venu me chercher hier au moment de dîner, en me disant qu'elle était devenue blanche. » « Était-ce dangereux ?»« Non, » dit Benassi, « effet de grossesse. Cette femme est à son dernier mois. Souvent, dans cette période, quelques femmes éprouvent des spasmes, mais il faut toujours, par précaution, que j'aille voir s'il n'est rien survenu d'alarmant. J'accoucherai moi-même cette femme. D'ailleurs, je vous montrerai là l'une de nos industries nouvelles, une briqueterie. Le chemin est beau. Voulez-vous galoper ? Votre bête me suivra-t-elle ? Dit Genesta en criant à son cheval. « Ô Neptune !» En un clin d'œil, l'officier fut emporté à 100 pas et disparut dans un tourbillon de poussière. Mais, malgré la vitesse de son cheval, il entendit toujours le médecin à ses côtés. Benassi dit un mot à sa monture et devança le commandant qui ne le rejoignit qu'à la briqueterie, au moment où le médecin attachait tranquillement son cheval au pivot d'un échalier. « Que le diable vous emporte !» s'écria Genesta en regardant le cheval qui ne suait ni ne soufflait. « Quelle bête avez-vous donc là ?»« Ah !» répondit en riant le médecin. « Vous l'avez prise pour une rosse ?»« Pour le moment... » L'histoire de ce bel animal nous prendrait trop de temps. Qu'il vous suffise de savoir que Roustan est un vrai barbe venu de l'Atlas. Un cheval barbe vaut un cheval arabe. Le mien gravit les montagnes au grand galop sans mouiller son poil et trotte d'un pied sûr le long des précipices. C'est un cadeau bien gagné d'ailleurs. Un père a cru me payer ainsi la vie de sa fille, une des plus riches héritières de l'Europe, que j'ai trouvée mourante sur la route de Savoie. Si je vous disais comment j'ai guéri cette jeune personne, vous me prendriez pour un charlatan. Hé ! Hé ! J'entends des grelots de chevaux et le bruit d'une charrette dans le sentier. Voyons si par hasard ce serait Vigneault lui-même. Et regardez bien cet homme. » Bientôt, l'officier aperçut 4 énormes chevaux harnachés comme ceux que possèdent les cultivateurs les plus aisés de la brie. Les bouffettes de laine, les grelots, les cuirs, avaient une sorte de propreté cossue. Dans cette vaste charrette, peinte en bleu, se trouvait un gros garçon joufflu, bruni par le soleil, et qui sifflait, en tenant son fouet, comme un fusil au port d'armes. « Non, ce n'est que le charretier, » dit Benassi. « Admirez un peu comme le bien-être industriel du maître se reflète sur tout. » Même sur l'équipage de ce voiturier. N'est-ce pas l'indice d'une intelligence commerciale assez rare au fond des campagnes ? Oui, oui, tout cela paraît très bien ficelé, reprit le militaire. Eh bien, Vigneault possède 2 équipages semblables. En outre, il a le petit bidet d'allure sur lequel il va faire ses affaires, car son commerce s'étend maintenant fort loin. Et 4 ans auparavant, cet homme ne possédait rien. Je me trompe, il avait des dettes. Mais entrons. Mon garçon, dit Benassi au charretier, Madame Vigneault doit être chez elle? Monsieur, elle est dans le jardin. Je viens de l'y voir par-dessus la haie. Je vais la prévenir de votre arrivée. Genesta suivit Benassi, qui lui fit parcourir un vaste terrain fermé par des haies. Dans un coin étaient amoncelées les terres blanches et l'argile nécessaire à la fabrication des tuiles et des carreaux. D'un autre côté s'élevaient en tas les fagots de bruyères et le bois pour chauffer le four. Plus loin, sur une aire enceinte par des claies, plusieurs ouvriers concassaient des pierres blanches ou manipulaient les terres à briques. En face de l'entrée, sous les grands ormes, était la fabrique de tuiles rondes et carrées. Grande salle de verdure terminée par les toits de la sécherie, près de laquelle se voyait le four et sa gueule profonde, ses longues pelles, son chemin creux et noir. Il se trouvait, parallèlement à ces constructions, un bâtiment d'aspect assez misérable qui servait d'habitation à la famille et où les remises, les écuries, les étables, la grange, avaient été pratiquées. Des volailles et des cochons vaguaient dans le grand terrain. La propreté qui régnait dans ces différents établissements et leur bon état de réparation attestaient la vigilance du maître. Le prédécesseur de Vigneault, dit Benassi, était un malheureux, un fainéant qui n'aimait qu'à boire. Jadis ouvrier, il savait chauffer son four et payer ses façons, voilà tout. Il n'avait d'ailleurs ni activité ni esprit commercial. Si l'on ne venait pas chercher ses marchandises, elles restaient là, se détérioraient et se perdaient. Aussi mourait-il de faim. Sa femme, qu'il avait rendue presque imbécile par ses mauvais traitements, croupissait dans la misère. Cette paresse, cette incurable stupidité me faisait tellement souffrir, et l'aspect de cette fabrique m'était si désagréable, que j'évitais de passer par ici. Heureusement, cet homme et sa femme étaient vieux l'un et l'autre. Un beau jour, le tuilier eut une attaque de paralysie, et je le fis aussitôt placer à l'hospice de Grenoble. Le propriétaire de la Tuilerie consentit à la reprendre sans discussion dans l'état où elle se trouvait, et je cherchais de nouveaux locataires qui pussent participer aux améliorations que je voulais introduire dans toutes les industries du canton. Le mari d'une femme de chambre de Madame Gravier, pauvre ouvrier gagnant fort peu d'argent chez un potier où il travaillait et qui ne pouvait soutenir sa famille, écouta mes avis. Cet homme eut assez de courage pour prendre notre tuilerie à bail sans avoir un denier vaillant. Il vint s'y installer, apprit à sa femme, à la vieille mère de sa femme et à la sienne à façonner des tuiles. Il en fit ses ouvriers. Je ne sais pas, foi d'honnête homme, comment ils s'arrangèrent. Probablement Vigneault emprunta du bois pour chauffer son four. Il alla sans doute chercher ses matériaux la nuit par hotée et les manipula pendant le jour. Enfin, il déploya secrètement une énergie sans bornes et les deux vieilles mères en haillons travaillèrent comme des nègres. Vigneault put ainsi cuire quelques fournées et passa sa première année en mangeant du pain chèrement payé par les sueurs de son ménage. Mais il se soutint. Son courage, sa patience, ses qualités le rendirent intéressant à beaucoup de personnes, et il se fit connaître. Infatigable, il courait le matin à Grenoble, y vendait ses tuiles et ses briques, puis il revenait chez lui vers le milieu de la journée, retournait à la ville pendant la nuit, il paraissait se multiplier. Vers la fin de la première année, il prit deux petits gars pour l'aider. Voyant cela, je lui prêtai quelque argent. Eh bien, monsieur, d'année en année, le sort de cette famille s'améliora. Dès la seconde année, les deux vieilles mères ne façonnèrent plus de briques, ne broyèrent plus de pierres. Elles cultivèrent les petits jardins, firent la soupe, raccommodèrent les habits, filèrent pendant la soirée et allèrent au bois pendant le jour. La jeune femme, qui sait lire et écrire, tint les comptes. Vigneault eut un petit cheval pour courir dans les environs, y chercher des pratiques. Puis il étudia l'art du briquetier, trouva le moyen de fabriquer de beaux carreaux blancs et les vendit au-dessous du cours. La troisième année, Il eut une charrette et deux chevaux. Quand il monta son premier équipage, sa femme devint presque élégante. Tout s'accorda dans son ménage avec ses gains, et toujours il y maintint l'ordre, l'économie, la propreté, principe générateur de sa petite fortune. Il put enfin avoir 6 ouvriers, et les paya bien. Il eut un charretier et mit tout chez lui sur un très bon pied. Bref, petit à petit, en s'ingéniant, en étendant ses travaux et son commerce, il s'est trouvé dans l'aisance. L'année dernière, il a acheté la Tuilerie. L'année prochaine, il rebâtira sa maison. Maintenant, toutes ces bonnes gens sont bien portants et bien vêtus. La femme, maigre et pâle, qui d'abord partageait les soucis et les inquiétudes du maître, est redevenue grasse, fraîche et jolie. Les deux vieilles mères sont très heureuses et vaquent aux menus détails de la maison et du commerce. Le travail a produit l'argent, et l'argent, en donnant la tranquillité, a rendu la santé, l'abondance et la joie. Vraiment, ce ménage est pour moi la vivante histoire de ma commune et celle des jeunes états commerçants. Cette Tuilerie que je voyais jadis morne, vide, malpropre, improductive, est maintenant en plein rapport, bien habitée, animée, riche et approvisionnée. Voici pour une bonne somme de bois et tous les matériaux nécessaires aux travaux de la saison. Car vous savez que l'on ne fabrique la tuile que pendant un certain temps de l'année, entre juin et septembre. Cette activité ne fait-elle pas plaisir? Mon tuilier a coopéré à toutes les constructions du bourg. Toujours éveillé, toujours allant et venant, toujours actif. Il est nommé le dévorant par les gens du canton. À peine Benassi avait-il achevé ces paroles qu'une jeune femme, bien vêtue, ayant un joli bonnet, des bas blancs, un tablier de soie, une robe rose, mise, qui rappelait un peu son ancien état de femme de chambre, ouvrit la porte à claire-voie qui menait au jardin et s'avança aussi vite que pouvait le permettre son état. Mais les deux cavaliers allèrent à sa rencontre. Madame Vigneault était en effet une jolie femme assez grasse, au teint basané, mais de qui la peau devait être blanche. Quoique son front gardât quelques rides, vestige de son ancienne misère, elle avait une physionomie heureuse et avenante. « Monsieur Benassi, dit-elle d'un accent câlin en le voyant s'arrêter, ne me ferez-vous pas l'honneur de vous reposer un moment chez moi ?»« Si bien, répondit-il. Passez, capitaine. » »« Ces messieurs doivent avoir bien chaud. Voulez-vous un peu de lait ou de vin ? Monsieur Benassi, goûtez donc au vin que mon mari a eu la complaisance de se procurer pour mes couches. Vous me direz s'il est bon. »
Vous avez un brave homme pour mari.
Oui, monsieur, dit-elle avec calme en se retournant. J'ai été bien richement partagée.
Nous ne prendrons rien, madame Vigneault. Je venais voir seulement s'il ne vous était rien arrivé de fâcheux.
Rien, dit-elle. Vous voyez, j'étais au jardin, occupée à biner pour faire quelque chose.
En ce moment, les deux mères arrivèrent pour voir Benassi, et le charretier resta immobile au milieu de la cour dans une direction qui lui permettait de regarder le médecin.
« Voyons, donnez-moi votre main, » dit Benassi à Madame Vigneault. Il tâta le pouls de la jeune femme avec une attention scrupuleuse, en se recueillant et demeurant silencieux. Pendant ce temps, les trois femmes examinaient le commandant avec cette curiosité naïve que les gens de la campagne n'ont aucune honte à exprimer.
« Au mieux !» s'écria gaiement le médecin.
« Accouchera-t-elle bientôt ? » s'écrièrent les deux mères.
« Mais cette semaine, sans doute. Vigneault est en route ? » demanda-t-il après une pause.
« Oui, monsieur, » répondit la jeune femme. Il se hâte de faire ses affaires pour pouvoir rester au logis pendant mes couches, le cher homme.
Allons, mes enfants, prospérez! Continuez à faire fortune et à faire le monde!
Genesta était plein d'admiration pour la propreté qui régnait dans l'intérieur de cette maison presque ruinée.
En voyant l'étonnement de l'officier, Benassis lui dit « Il n'y a que Madame Vignot pour savoir approprier ainsi un ménage. Je voudrais que plusieurs gens du bourg vinssent prendre des leçons ici. » La femme du tuilier détourna la tête en rougissant. Mais les deux mères laissèrent éclater sur leur physionomie tout le plaisir que leur causaient les éloges du médecin, et toutes trois l'accompagnèrent jusqu'à l'endroit où étaient les chevaux. « Eh bien, » dit Benassis en s'adressant aux deux vieilles, « vous voilà bien heureuses. Ne vouliez-vous pas être grand-mère ?»« Ah, ne m'en parlez pas, » dit la jeune femme, « ils me font enrager. Mes deux mères veulent un garçon, mon mari désire une petite fille. Je crois qu'il me sera bien difficile de les contenter tous. »« Mais vous, que voulez-vous ? » dit en riant Benassis. « Ah, moi, monsieur, je veux un enfant. »« Voyez, elle est déjà mère, » dit le médecin à l'officier en prenant son cheval par la bride. « Adieu, monsieur Benassis, » dit la jeune femme. « Mon mari sera bien désolé de ne pas avoir été ici quand il saura que vous y êtes venu. »« Il n'a pas oublié de m'envoyer mon millier de tuiles à la Grange aux Belles. » « Vous savez bien qu'il laisserait toutes les commandes du canton pour vous servir. Allez, son plus grand regret est de prendre votre argent. Mais je lui dis que vos écus portent bonheur. Et c'est vrai. »« Au revoir, » dit Benassis. Les trois femmes, le charretier et les deux ouvriers sortis des ateliers pour voir le médecin, restèrent groupés autour de l'échalier qui servait de porte à la Tuilerie, afin de jouir de sa présence jusqu'au dernier moment, ainsi que chacun le fait pour les personnes chères. Les inspirations du cœur ne doivent-elles pas être partout uniformes? Aussi les douces coutumes de l'amitié sont-elles naturellement suivies en tout pays. Après avoir examiné la situation du soleil, Benassis dit à son compagnon « Nous avons encore 2 heures de jour, et si vous n'êtes pas trop affamé, nous irons voir une charmante créature à qui je donne presque toujours le temps qui me reste entre l'heure de mon dîner et celle où mes visites sont terminées. On la nomme ma bonne amie dans le canton, mais ne croyez pas que ce surnom, en usage ici pour désigner une future épouse, puisse couvrir ou autoriser la moindre médisance. Quoique mes soins pour cette pauvre enfant la rendent l'objet d'une jalousie assez concevable, l'opinion que chacun a prise de mon caractère interdit tout méchant propos. Si personne ne s'explique la fantaisie à laquelle je parais céder, en faisant à la fausseuse une rente pour qu'elle vive sans être obligée de travailler, tout le monde croit à sa vertu. Tout le monde sait que si mon affection dépassait une fois les bornes d'une amicale protection, je n'hésiterais pas un instant à l'épouser. Mais, ajouta le médecin en s'efforçant de sourire, il n'existe de femme pour moi, ni dans ce canton, ni ailleurs. Un homme très expansif, mon cher monsieur, éprouve un invincible besoin de s'attacher particulièrement à une chose ou à un être, entre tous les êtres et les choses dont il est entouré, surtout quand, pour lui, la vie est déserte. Aussi, croyez-moi, monsieur, jugez toujours favorablement un homme qui aime son chien ou son cheval. Parmi le troupeau souffrant que le hasard m'a confié, cette pauvre petite malade est pour moi ce qu'est dans mon pays de soleil, dans le Languedoc, la brebis chérie à laquelle les bergères mettent des rubans fanés, à qui elle parle, qu'elle laisse pâturer le long des blés, et de qui jamais le chien ne hâte la marche indolente. » En disant ces paroles, Benassis restait debout, tenant les crins de son cheval, prêt à le monter, mais ne le montant pas, comme si le sentiment dont il était agité ne pouvait s'accorder avec de brusques mouvements. « Allons, s'écria-t-il, venez la voir. Vous menez chez elle, n'est-ce pas vous dire que je la traite comme une sœur ? » Quand les deux cavaliers furent à cheval, Genesta dit au médecin Serais-je indiscret en vous demandant quelques renseignements sur votre fausseuse? Parmi toutes les existences que vous m'avez fait connaître, elle ne doit pas être la moins curieuse.
Monsieur, répondit Benassi en arrêtant son cheval, peut-être ne partagerez-vous pas tout l'intérêt que m'inspire la fausseuse. Sa destinée ressemble à la mienne. Notre vocation a été trompée. Le sentiment que je lui porte et les émotions que j'éprouve en la voyant viennent de la parité de nos situations. Une fois entré dans la carrière des armes, vous avez suivi votre penchant, ou vous avez pris goût à ce métier, sans quoi vous ne seriez pas resté jusqu'à votre âge, sous le pesant harnais de la discipline militaire. Vous ne devez donc comprendre ni les malheurs d'une âme dont les désirs renaissent toujours et sont toujours trahis, ni les chagrins constants d'une créature forcée de vivre ailleurs que dans sa sphère. De telles souffrances restent un secret entre ces créatures et Dieu qui leur envoie ces afflictions. Car elles seules connaissent la force des impressions que leur causent les événements de la vie. Cependant, vous-même, témoin blasé de tant d'infortunes produites par le cours d'une longue guerre, n'avez-vous pas surpris dans votre cœur quelque tristesse en rencontrant un arbre dont les feuilles étaient jaunes au milieu du printemps, un arbre languissant et mourant, faute d'avoir été planté dans le terrain où se trouvaient les principes nécessaires à son entier développement? Dès l'âge de 20 ans, la passive mélancolie d'une plante rabougrie me faisait mal à voir. Aujourd'hui, je détourne toujours la tête à cet aspect. Ma douleur d'enfant était le vague pressentiment de mes douleurs d'homme, une sorte de sympathie entre mon présent et un avenir que j'apercevais instinctivement dans cette vie végétale, courbée avant le temps vers le terme où vont les arbres et les hommes. Je pensais en vous voyant si bon que vous aviez souffert.